Il arrive souvent lorsqu'on circule dans nos rues de voir sur une voiture devant nous un autocollant qui dit « J'aime Dieu » ou « J'aime Jésus-Christ ». C'est là une question importante pour un chrétien. Mais en fait, c'est réellement un point important de la Bible. Vous vous rappelez, on voit ça dans Matthieu 22, on lui a demandé, Maître, quel est le plus grand des commandements? On a posé la question au Christ. On sait que ces gens-là ne cherchaient pas à comprendre réellement, mais les pharisiens cherchaient à l'accuser. Alors, au verset 36 de Matthieu 22, on voit ceci, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Voilà la question qu'on lui a posée. Et au verset 37, on voit la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Comment aimez-vous Dieu? Comment exprimons-nous notre amour envers Dieu et comment devrions-nous exprimer notre amour envers Dieu? Dans les religions du monde, les gens, par exemple, certains ont choisi de faire de grands sacrifices pour exprimer leur amour envers Dieu. Certains ont fait vœux de pauvreté, vœux de silence, vœux de célibat. Certains ont jeûné. On voit des gens qui font de grands pèlerinages parfois en pensant plaire à Dieu. Certains se sont imposés toutes sortes de sacrifices physiques, pensant plaire à Dieu. Certains ont décidé de vivre une vie sans confort ni plaisir pour plaire à Dieu. Est-ce que cela plaît vraiment à Dieu? Est-ce que c'est la sorte d'expression d'amour que Dieu désire voir de notre part? C'est une question importante. Il faut d'abord réaliser en partant que Dieu nous a aimés le premier. Et lorsque nous exprimons de l'amour envers notre Créateur, c'est un retour d'ascenseur, pour ainsi dire. Allons à 1 Jean, le chapitre 4, s'il vous plaît, verset 19. 1 Jean, chapitre 4 et le verset 19. Une toute petite phrase, mais qui dit clairement ce qui en est. Pour nous, nous l'aimons. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Voyez-vous, c'est Dieu qui a été l'initiateur de notre relation avec lui. Et c'est important de bien comprendre à partir de là que c'est à Dieu qu'il revient de dire comment il veut que nous l'aimions. Allons dans Jean 3, chapitre 16, s'il vous plaît. Jean 3, chapitre 16. Un passage des Écritures très important et très puissant, Jean 3, le verset 16, ça nous montre la profondeur de l'amour de Dieu envers nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, l'amour de Dieu envers nous a été exprimé d'une façon très réelle qui touche nos vies de façon totale. Et c'est ce que Dieu nous révèle pour que nous le comprenions et que nous l'apprécions. Dans 1 Jean, encore, retournons dans 1 Jean, le chapitre 4, s'il vous plaît. 1 Jean, chapitre 4, et nous allons lire ici à partir du verset 8, aller jusqu'au verset 10. La Bible nous dit, Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors, notre connaissance de Dieu et notre relation avec lui doit être basée sur notre connaissance de Dieu et sur ses instructions. Et nous devons passer à l'action et l'aimer comme il nous dit de l'aimer. Verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors, la Bible nous dit que nous devons réagir à l'amour de Dieu, répondre à l'amour de Dieu de façon appropriée. Et pour le faire, nous devons voir ce que Dieu nous dit de faire. C'est lui qui nous guide dans ce sens-là. Et c'est lui qui nous révèle comment nous devons exprimer notre amour envers lui. En fait, la Bible nous dit que un des domaines dans lequel nous devons grandir et croître, c'est justement dans l'amour de Dieu, en laissant Dieu nous montrer comment il veut que nous exprimions notre amour envers lui. Allons à 2 Thessaloniciens, chapitre 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, et nous allons lire le verset 5. L'apôtre Paul, ici, parle à des frères qu'il aime beaucoup. Il dit « Que le Seigneur dirige vos cœurs dans l'amour de Dieu et dans la patience de Christ. » Alors, Paul veut que nos cœurs soient dirigés de la bonne façon. Nous vivons dans une société où les gens ont choisi et choisissent de faire les choses à leur façon, à partir de leur expérience de vie, de leur culture, de leur éducation, et les gens définissent par eux-mêmes ce qu'est l'amour, du moins ce qu'ils pensent qu'est l'amour. Mais la Bible définit clairement comment aimer Dieu. Ce n'est pas à nous, êtres humains, à dire comment nous devons aimer Dieu, mais c'est à Dieu à nous le montrer. Et c'est écrit dans sa parole. Et à partir de là, nous devons le mettre en pratique dans nos vies. Il y a un principe dans le livre de Deutéronome où Dieu nous dit d'être prudents pour éviter de faire les choses justement à notre façon humaine. Et Dieu ne veut pas que nous l'adorions à notre façon, que nous inventions des façons humaines, comme c'est trop souvent le cas dans la société, pour l'aimer ou penser l'aimer. Mais Dieu dit que c'est lui qui nous dit comment l'aimer. Deutéronome 12, verset 4, il dit aux enfants d'Israël, « Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. » La référence ici, c'est qu'il parle des idoles, des images qu'on adorait à ce moment-là, toutes les divinités païennes qu'on adorait. Et les Israélites avaient appris ces choses-là en Égypte, et certains avaient même amené avec eux des petites figurines de Dieu dans leur bagage. Mais Dieu dit non, ne faites pas ça. Et bien sûr, ça comprend les choses de nature spirituelle aussi. Alors il dit, « Mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes et ainsi de suite. » Alors, nous sommes ici parce que nous avons partiellement répondu, du moins, à cette question, comment aimer Dieu, et nous apprenons jour après jour à l'aimer de mieux en mieux. Et Dieu nous le montre clairement dans sa parole. Et Dieu le dit ici très clairement à Israël, verset 6, « C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. » Voici des domaines dans lesquels Dieu leur a donné des directives pour l'adorer. Et lorsque vous étudiez ces choses-là, on voit que tout ça pointait ou était orienté sur les lois de Dieu et sur le sacrifice du Christ à venir. Verset 7, « C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. » Et notez le verset 8 maintenant. « Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon à ses propres yeux. » C'est ce qui se passait à ce moment-là. Alors, Dieu a corrigé la situation, il a donné des directives, il voulait qu'Israël l'adore, l'aime de façon particulière, selon ses directives. Et Dieu nous donne aujourd'hui encore des directives dans sa parole pour nous montrer comment l'adorer, comment l'aimer. Et c'est important que nous le comprenions. Et bien sûr, dans ce sermon, je ne pourrai pas couvrir tous les détails d'un tel sujet, mais j'espère vous amener à réfléchir de façon générale à vos rapports avec Dieu pour que vous évaluiez l'expression d'amour ou les expressions d'amour que vous présentez à votre Dieu. Est-ce que c'est conforme à ce que Dieu vous demande? Et j'aimerais que vous vous demandiez, est-ce que c'est important que j'aime Dieu vraiment, comme Dieu me dit de l'aimer? Et c'est bien le cas, mais j'aimerais vous amener à réfléchir là-dessus. Allons à Jean chapitre 14, s'il vous plaît, Jean chapitre 14. Et nous allons lire à partir du verset 15. Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Alors, c'est très clair. Notre expression d'amour envers Dieu est fondée essentiellement sur l'obéissance. Au verset 21 du même chapitre, le Christ dit ceci encore, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Et celui qui m'aime sera aimé par mon Père, je l'aimerai aussi, et je me ferai connaître à lui. Verset 23 maintenant, Jésus continue en disant, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Alors, les paroles de Christ sont, on ne peut plus clair ici. Nous devons obéir au commandement de Dieu, nous soumettre à ses directives, et ça fait partie du développement de notre relation d'amour envers Dieu. Et on doit l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de tout notre être. Verset 24, le Christ dit encore, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Dans l'Église de Dieu, nous comprenons généralement le grand commandement, le Christ, lorsqu'il a dit « Le plus grand commandement consiste à aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être », c'est que le Christ, à ce moment-là, résumait les quatre premiers commandements qui décrivent comment nous devons aimer Dieu. Nous comprenons également le deuxième commandement qui est comme le premier, le fait d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme le Christ l'a mentionné dans Matthieu 22, comme on a vu tout à l'heure, c'est que ce deuxième commandement-là, qu'on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes, résume les six derniers des 10 commandements qui, eux, décrivent nos relations avec les gens autour de nous. Les gens ne réalisent pas tout ce que ça veut dire et les gens ne réalisent pas comment nous devons aimer Dieu. Beaucoup de gens dans notre société pensent aimer Dieu, mais le font à leur façon. Et ils expriment leur amour à leur façon, mais ce n'est pas l'amour véritable que Dieu veut voir dans notre vie. Et on voit dans la vie de la plupart des gens, dans la société moderne, des fruits qui ne sont pas des fruits de l'amour de Dieu. Alors, mon message aujourd'hui va parler surtout des quatre premiers commandements. Comment aimer Dieu? Comment on peut, à travers ces quatre premiers commandements, des 10 commandements-là, comment on peut savoir la façon d'aimer Dieu? Ce sont des instructions simples et claires. Et ces quatre premiers commandements-là doivent guider nos rapports avec notre Créateur. Et ça a une incidence aussi sur nos rapports avec les autres. Et lorsque nous comprenons ce que ça veut dire, que nous comprenons vraiment l'amour envers Dieu, on peut comprendre encore plus l'amour envers le prochain après. Exode chapitre 20, là où se trouvent les 10 commandements, Exode chapitre 20 et le verset 1 ici maintenant. C'est intéressant de voir ce que Dieu dit avant de prononcer les 10 commandements. Parce que Dieu, ici, nous montre comment établir la relation avec lui, de quoi il parle d'abord. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » de la maison de servitude. Et nous savons, à partir de la parole du Christ, comme c'est clairement révélé dans le Nouveau Testament, que personne ne peut venir au Christ si le Père ne l'attire. Dieu nous donne la compréhension, ça nous vient de lui. C'est lui qui nous donne la compréhension spirituelle. Et on voit que dans l'expérience que Dieu a donnée à l'apôtre Paul de vivre, il a commencé par le rendre aveugle, même physiquement, avant de lui donner de voir les choses spirituellement parlant, pour ainsi dire. Et c'est Dieu qui a ouvert la compréhension de l'apôtre Paul, qui était jusque-là ennemi de Dieu, pour ainsi dire, et ennemi de l'Église, bien sûr. Et on voit par là que c'est Dieu qui fait les premiers pas d'appeler chacun de ceux qui l'appellent, et ça s'applique pour vous, comme ça s'applique à l'apôtre Paul. Dieu est celui qui nous a aimés le premier et qui nous a amenés à entrer en relation avec lui. Et après ça, nous devons répondre à cela. Voici le premier domaine de réponse, si vous voulez. Verset 3, premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Dieu exige qu'il soit le premier dans notre vie. Vous savez, dans les relations les plus intimes d'amour qu'on peut expérimenter sur le plan humain, c'est la même chose. Ce sont les relations intimes entre mari et femme qui deviennent une seule chair. Un jeune homme va dire à sa fiancée, par exemple, qu'elle est la personne la plus importante à ses yeux, qu'elle est très spéciale à ses yeux. Il l'exprime. Ce sont des termes d'amour, d'affection, ce sont des expressions d'amour. Et ça reflète les sentiments les plus profonds d'un individu. Dans Luc 14, le Christ nous dit dans Luc 14 qu'est-ce qu'il faut avoir et faire et quelle attitude il nous faut avoir pour être vraiment son disciple. Et lorsqu'on prépare quelqu'un pour le baptême, on l'amène à réaliser ce qui est écrit ici. C'est une question d'établir des priorités dans nos vies. Luc 14 et le verset 25, c'est le Christ qui parle. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, voici, le Christ ici indique, dans le fond, ce que dit le premier commandement qu'on vient de lire. Il faut avoir Dieu comme être premier dans notre vie. Si quelqu'un vient à moi, et c'est le Christ qui parle à ce moment-là, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, voyez-vous, c'est une question de priorité. Ici, le Christ explique clairement que si quelqu'un veut devenir chrétien, veut appartenir au Christ, veut être baptisé et entrer en relation intime avec lui, avec le Père, à ce moment-là, c'est que Dieu doit être en premier dans la vie de cette personne-là. Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Voyez-vous, même notre propre vie ne doit pas faire obstacle et être en priorité. Dieu doit être en premier. Alors, pour apprendre la vérité, pour apprendre à aimer Dieu et pour appartenir à Dieu, il nous faut prendre d'abord cette décision d'établir Dieu comme premier dans notre vie. Et nous devons le faire individuellement. Et ça implique notre vie personnelle intime et notre relation avec notre Créateur. Verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. On n'a pas tous les mêmes épreuves, les mêmes difficultés ou la même histoire. On fait face aux circonstances de la vie, là où Dieu a permis qu'on soit placé. Et nous avons plusieurs occasions de grandir. Dieu veut que nous utilisions la situation où nous sommes, l'état où nous sommes, ce que nous avons à vivre pour croire dans l'amour envers lui. Il dit ici, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Alors, dans le fond, ce que le Christ dit ici, c'est une magnification ou une explication du premier commandement qu'on a vu dans Exode 20. Allons à Matthieu 19, s'il vous plaît. Matthieu 19. Il y a plusieurs soi-disant chrétiens dans le monde qui se pensent chrétiens, qui ne comprennent pas vraiment ce que je vais vous montrer ici. Matthieu 19 et le verset 16. Et certains qui se pensent chrétiens disent que ce passage-là que je vais vous lire sont des instructions du Christ qui diffèrent de l'Ancien Testament, si vous voulez. Mais ce n'est pas le cas. Ici, le Christ n'a pas rejeté les quatre premiers commandements, comme certains prétendent, mais le Christ a expliqué à ce jeune homme-là qui voulait entrer dans la vie éternelle là où était sa faiblesse. Et sa faiblesse était dans ses rapports avec Dieu. Et le Christ a montré ça clairement. On voit dans Matthieu 19 et le verset 16 ici. Et voici, un jeune homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Le Christ lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. » C'est-à-dire Dieu. Immédiatement, le Christ a attiré l'attention du jeune homme sur le Dieu suprême de l'univers. Parce que le point d'attention de ce jeune homme-là était davantage au niveau matériel, au niveau physique. Ce jeune homme-là était tourné plus vers les choses de ce monde-là que vers Dieu. C'était une question de priorité et de motif. Alors, le Christ lui dit ici, un seul est bon, c'est le Dieu suprême. Il dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit le jeune homme. Alors, dans sa pensée, le jeune homme avait un peu de confusion. Et le Christ lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, le résumé des six derniers commandements. La plupart des gens arrêtent là dans la lecture, en termes des commandements de Dieu, et disent, bon, les quatre premiers commandements ont été abolis. Certains prétendent ça, ce n'est pas le cas. Non, ce que le Christ faisait ici, c'est qu'il est en train d'encourager le jeune homme en lui citant les commandements que le jeune homme observait déjà. C'était un point d'encouragement qu'il lui donnait. C'est pour ça que le jeune homme, au verset 20, lui dit, j'ai observé toutes ces choses, qu'est-ce qu'il me manque encore? Vous savez, il y a très peu de gens sur la terre qui pourraient dire au Christ la même réponse que le jeune homme a donnée. Il n'y a pas beaucoup de gens sur la terre qui pourraient dire au Christ, « Bon, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais commis l'adultère, je ne mens pas, j'honore mes parents comme il faut, et ainsi de suite. » Je n'ai jamais commis d'adultère, je n'ai pas commis de meurtre. Vous savez, ce jeune homme-là, lorsqu'on lit le texte comme il faut, était un jeune homme remarquable. Et Jésus ne met pas en question cette partie des commandements qu'il faisait comme il faut, mais Jésus ajoute ceci, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Qu'est-ce que le Christ a demandé à ce jeune homme-là de faire? Certains vont dire, bon, de se débarrasser de ses richesses. Non. Ici, le Christ lui a demandé de prendre une décision en ce qui concernait ses priorités. Dans le fond, le Christ l'a amené à réaliser qu'il devait obéir au premier commandement, c'est-à-dire à ne pas avoir d'autre Dieu devant sa face. Parce que la Bible nous dit que la convoitise est une idolâtrie, c'est de mettre un autre Dieu devant le vrai Dieu. Alors, le jeune homme avait de la difficulté, avait un problème spirituel dans sa relation avec Dieu, c'est qu'il mettait ses richesses avant Dieu. Ses possessions physiques étaient plus importantes pour lui que sa vie spirituelle et que sa relation avec Dieu. Alors, ces instructions renforcent l'importance de comprendre comment aimer Dieu. Et comment il est important de mettre en pratique les directives que Dieu nous donne. La Bible nous dit très clairement dans Matthieu 6 et le verset 33, Matthieu 6 et le verset 33, c'est une écriture que plusieurs d'entre vous connaissez déjà par cœur. C'est un principe essentiel, un principe de base en ce qui concerne nos priorités, justement. Matthieu 6 et le verset 33. Ici, Dieu parle de tout ce dont nous avons besoin physiquement, en termes d'habillement, d'habitation, en termes d'alimentation. Et ici, le Christ dit, malgré que tout ça existe, tous ces besoins-là, ce que vous devez faire pour aimer Dieu, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et regardez, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voyez-vous, encore là, le Christ ici met l'accent sur la priorité de nos vies qui doit consister à mettre Dieu en premier et à chercher à faire sa volonté en toute chose. Le Christ a magnifié la loi. Jean chapitre 15, on voit une autre déclaration du Christ ici, au verset 9, Jean 15 et le verset 9. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai moi-même gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Alors, ce que le Christ dit ici, c'est qu'il a lui-même mis en application ses directives sur la façon d'aimer Dieu. Verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. » Une des choses que Dieu dit en ce qui concerne Abraham, c'est qu'Abraham était l'ami de Dieu. Pensez-y un peu. Qu'est-ce qu'Abraham a fait pour être l'ami de Dieu ainsi? C'est qu'il a été prêt à abandonner les choses qui étaient importantes à ses propres yeux pour suivre Dieu. Et c'était là son expression d'amour. Et c'est le même principe que le Christ nous enseigne ici. Nous devons aimer Dieu en premier et ensuite notre prochain et être prêts à donner notre vie pour les autres. Parce que nos frères, ceux autour de nous, notre prochain, les autres êtres humains, Dieu les aime autant que nous. Et c'est le Christ qui dirige notre relation avec Dieu et avec les autres. Verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. » La Bible parle de ceux qui sont appelés comme étant les petits frères et les petites sœurs du Christ. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alors, la première expression d'amour en termes de commandement de Dieu, c'est une question de priorité. C'est d'aimer Dieu d'abord et par-dessus tout. Sur le plan physique, avec un conjoint, une conjointe, c'est la même chose qui se produit. C'est que notre conjoint ou notre conjointe est en priorité dans notre vie physique. Et l'autre est en droit de s'attendre à ça. Si vous fréquentez une jeune fille, par exemple, et que vous l'aimez, et que la jeune fille vous dit « Ah, je vous aime bien, mais j'aime bien Georges et Pierre et Antoine aussi », vous allez vous poser des questions et vous allez réaliser qu'elle ne vous aime pas réellement. Mais si la jeune fille que vous aimez vous dit « Vous êtes le premier dans ma vie, vous êtes le plus important dans ma vie, tu es celui que j'aime, que je chéris, et ça va vous toucher au cœur », et vous allez sentir que vous êtes très spécial à ses yeux. Le premier commandement est justement dans ce sens-là l'expression d'un amour prioritaire, d'une relation prioritaire avec Dieu. Regardons maintenant le deuxième commandement qui nous dit comment aimer Dieu. Exode 20, retournons à Exode 20, s'il vous plaît. Exode chapitre 20. « Parfois, on a l'impression que il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Il y a en même temps un sens tout à fait positif à chaque commandement. Exode 20, verset 4, « Voici quelque chose que Dieu nous dit de ne pas faire. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. » Intéressant parce que dans cette situation, Dieu met deux choses en contraste ici. Entre amour et animosité ou haine envers Dieu. Dieu nous montre aussi qu'il est miséricordieux, verset 6, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Qu'est-ce que l'idolâtrie a à voir avec nos rapports avec Dieu? C'est humain de vouloir prendre des moyens pour adorer Dieu, d'avoir recours à des moyens physiques pour essayer d'aimer Dieu ou d'adorer Dieu. Certaines personnes ont des crucifix ou des choses comme ça, et quand vous demandez aux gens pourquoi ils utilisent ça, ils disent que pour eux, c'est un moyen physique, c'est comme un pont, c'est comme une aide pour adorer Dieu, mais on vient de voir, c'est exactement ce que Dieu défend de faire. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une aide comme ça, physique, ou d'un pont comme ça? Dieu nous dit directement ici comment on doit l'aimer. Les êtres humains utilisent des statues ou des portraits ou des images pour essayer d'adorer Dieu ou d'aimer Dieu. Mais au contraire, ça met un obstacle entre lui et nous parce que c'était une transgression de la loi. Dieu dit « ne faites pas ça ». Dieu nous dit comment l'aimer. C'est lui qui établit la façon de le faire. Dieu sait comment nous fonctionnons humainement, comment nous pensons et comment fonctionne notre cœur. Et c'est pourquoi Dieu nous donne des directives bien précises en disant « ne vous faites pas d'image ou de représentation de Dieu ». Jean, chapitre 4, s'il vous plaît, Jean, chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 22. Jean, chapitre 4, et à partir du verset 22. Le Christ ici parle à la dame qui est allé chercher de l'eau au puits sur la façon d'adorer Dieu, verset 22, il dit « Vous et votre peuple, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Il y avait une certaine connaissance que les Juifs avaient et ils devaient se tenir éloignés de toute forme d'idolâtrie. Verset 23, « Mais l'heure vient. » Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est exactement la façon avec laquelle Dieu veut être adoré et aimé. Non pas à travers des moyens physiques comme des images ou des statues ou quoi que ce soit. Non, Dieu veut être aimé pour qui il est, intérieurement, pour ce qu'il est. Écoutez, même humainement, c'est la sorte de relation que nous aimons avoir avec quelqu'un. Une jeune femme ne veut pas être aimée par un homme à cause de son apparence extérieure, par exemple. Elle désire être aimée pour ce qu'elle est, au fond d'elle-même, pour qui elle est. C'est ce qui est important. Et Dieu nous montre qu'on doit l'aimer directement pour ce qu'il est, réellement, et non pas en utilisant des moyens physiques qui font partie de la création physique. On doit l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de tout notre être. Verset 24, regardez, « Pourquoi? Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alors, Dieu défend l'idolâtrie. Dieu veut qu'on apprenne à le connaître en termes de ce qu'il se révèle lui-même dans la Bible. Et la Bible nous fait connaître la pensée, la mentalité de Dieu, ses émotions, sa façon de voir les choses, sa culture. Et il y a exemple sur exemple sur la façon de Dieu de travailler dans la vie de ceux qu'il appelle. Si vous étudiez vraiment la Bible et que vous approfondissez les choses, vous allez trouver plusieurs éléments qui identifient le vrai Dieu, non pas des apparences extérieures, des images, mais qui vont vous faire connaître le vrai Dieu parce qu'il se révèle dans sa parole tout au long de la Bible. Ça révèle son caractère, ses priorités, son cœur, son amour, qui il est réellement. La Bible nous dit, comme on l'a vu au début du sermon, Dieu est amour. Dieu se révèle dans la Bible au niveau de nombreuses de ses caractéristiques. Et Dieu veut qu'on apprenne à le connaître de cette façon-là et que nous l'adorions pour qui il est vraiment et que nous l'aimions à partir de ce fondement, en esprit et en vérité, sur la vérité de qui il est vraiment. Nous utilisons le terme dans l'Église de Dieu, le vrai Jésus, et c'est très important. Et c'est la même chose pour notre Père céleste, le vrai Dieu. Et nous apprenons à comprendre et à connaître qui il est vraiment en étudiant sa parole et en mettant en pratique la façon de l'aimer. Allons à Marc, le chapitre 7, maintenant. Une déclaration intéressante ici. Lorsque Dieu nous appelle, il nous donne ses instructions, il nous donne un sentier de vie à suivre, sa voie divine. Et ça nous place dans une certaine perspective, vraiment différente de celle qu'on avait avant. Et nos priorités changent. Alors, Marc, chapitre 7 et le verset 6. Quand vous passez à travers une épreuve et que vous mettez Dieu en premier, qu'est-ce qui arrive? C'est que votre cœur, votre pensée, votre esprit est complètement différent des autres autour de vous qui passent peut-être par les mêmes épreuves dans le monde et qui ne sont pas appelés par Dieu. Vous vivez des choses spéciales, sans restriction, parce que vous passez à travers l'épreuve et à travers la vie avec l'aide de Dieu et vous développez davantage la mentalité de Dieu, sa compréhension, sa perspective. Et plus vous êtes proche de Dieu à ce moment-là. Marc chapitre 7 et le verset 6. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Même si beaucoup de gens honorent Dieu, comme c'était le cas à l'époque, un grand nombre sont loin de lui. Regardez le verset 7, « C'est en vain qu'il m'honore. » Pourquoi? En donnant des préceptes ou des commandements qui sont des commandements d'hommes. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre les instructions de Dieu, ses directives, puis les mettre de côté, et ensuite prendre des façons différentes pour l'adorer ou pour penser lui faire plaisir. Voyez-vous, les pharisiens connaissaient la loi de Dieu, mais ils ne l'appliquaient pas comme Dieu disait. Et c'est pour ça que le Christ dit, « Leur cœur est éloigné de moi. » Verset 8, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Et après, le Christ explique plus en détail. Un des domaines où nous apprenons le caractère de Dieu, c'est d'obéir aux instructions divines. Et lorsque nous faisons ça, nous apprenons le caractère de Dieu et nous apprenons à l'adorer comme il veut être adoré. Et nous aimons les choses qu'il nous révèle et nous les comprenons de plus en plus. Vous savez, dans l'Église de Dieu, on aime Dieu et on aime ce qu'il nous demande. J'aime le sabbat, par exemple. Et le sabbat, on en parlera un peu plus tard, mais ça nous révèle le caractère de Dieu aussi et ça nous rapproche de lui, le fait d'observer le jour que lui a décrété. J'apprécie beaucoup, par exemple, le fait de savoir qu'il y a des aliments qu'on doit manger et des aliments qu'on ne doit pas manger. Je ne mange pas de homard, je ne mange pas de crevettes. Vous savez, le fait d'agir ainsi, en toute connaissance du fait que c'est Dieu qui me donne ces directives-là, ça me rapproche de lui et c'est une façon de l'apprécier, d'aimer Dieu, parce que lui est saint, lui est pur et il nous appelle à devenir comme lui, à faire partie de sa famille. Il nous a appelés à être purs, à être sanctifiés. Alors, c'est pourquoi Dieu ne veut pas avoir une image ou une idole ou un symbole pour l'adorer. Il veut que nous l'adorions pour ce qu'il est et pour qui il est. Si nous allons à 1 Jean, le chapitre 2, 1 Jean, chapitre 2, nous allons commencer au verset 3 ici. 1 Jean 2, le chapitre 2 et le verset 3. Il est encore question ici de la façon d'aimer Dieu, c'est-à-dire de garder ses commandements. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Voyez-vous? Si nous gardons ses commandements, nous savons que nous le connaissons et que nous l'aimons. En obéissant à ses lois, ses 10 commandements, on connaît Dieu davantage. Verset 4, « Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole, c'est-à-dire qui la met en pratique. Obéir à Dieu en termes d'amour, c'est une chose réelle. Et voilà le véritable pont qui nous approche de Dieu. Et voilà la véritable relation que nous devons établir avec Dieu, c'est de marcher dans ses voies. Mon épouse et moi sommes mariés depuis 40 ans maintenant. Et je peux vous dire qu'à mes yeux, elle devient plus belle de jour en jour à cause de qui elle est, son caractère, ses forces. Bien sûr, elle a des faiblesses. Moi aussi, j'ai des faiblesses, j'ai des défauts. Mais à travers toutes ces années de mariage, j'ai appris à la connaître, à la comprendre et à l'aimer davantage. Et comme la Bible dit, nous sommes devenus une seule chair et même une seule pensée, je dirais. Parfois, elle sait d'avance ce que je vais dire ou comment je vais réagir. Et c'est la même chose de mon côté. Parfois, c'est même frustrant parce que des fois, je vais dire d'avance ce qu'elle est en train de dire parce que je sais ce qu'elle va dire. Il faut que je fasse attention pour ne pas faire ça, pour la laisser s'exprimer. Mais on vient qu'on se connaît tellement que ces choses-là arrivent. On vient que nos rapports sont tellement étroits, on devient un vraiment. On vient qu'on se connaît profondément. Et lorsqu'on obéit au commandement de Dieu, qu'on marche dans ses voies, on le connaît de plus en plus et on est de plus en plus proche et on l'aime comme lui veut qu'on l'aime. Et là, on le connaît. Et là, nous avons des rapports avec Dieu, une relation selon sa volonté. Et c'est lié directement avec sa personnalité réelle et avec son caractère. Alors, par cela, nous savons que nous sommes en lui, si nous gardons sa parole. Verset 6, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a lui-même marché. » C'est un commandement qui est très clair, très simple, très direct. Et ça nous conduit logiquement au prochain commandement que Dieu nous a donné pour nous montrer comment l'aimer. Exode, chapitre 20, on retourne maintenant à Exode, chapitre 20, et nous allons lire le verset 7. Exode 20 et le verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Pourquoi est-ce que Dieu se préoccupe tellement de notre façon d'utiliser son nom? Dans notre société, le nom qu'on reçoit n'a pas nécessairement de lien avec qui nous sommes. Mon premier nom, c'est Lambert. C'est que ma grand-mère, du côté paternel, s'appelait Lamberson, son nom de famille, ou Lamberson, si vous voulez. Alors, j'ai été nommé Lambert à cause du nom de famille de ma grand-mère. Et la Bible nous montre que Dieu a des noms, c'est-à-dire des titres, qui décrivent qui il est et ce qu'il fait. Alors, ce n'est pas simplement un nom comme on peut penser, Georges, Albert, Régent, non. Les noms que Dieu a dans la Bible l'identifient. Il est, par exemple, le Tout-Puissant. Il est le Dieu qui guérit. Il est le rocher. Il s'appelle la forteresse. Il s'appelle amour. Il s'appelle miséricorde. En d'autres termes, des noms qui décrivent le caractère même du Dieu de l'univers. Alors, ça décrit qui il est. Alors, voyez-vous, si on manque de respect envers Dieu et si on néglige ou si on considère avec négligence ces titres-là, ces noms-là de Dieu, on comprend pourquoi Dieu nous dit de ne pas faire ça. Parce que Dieu veut qu'on apprenne à l'aimer, qu'on développe amour envers lui. Vous savez, même sur le plan humain, si quelqu'un rabaisse un autre en disant quelque chose avec manque de respect, ça blesse profondément. Peut-être même dans un couple, un des conjoints va dire parfois sous la colère, malheureusement, des mots durs en s'en prenant à la personne ou au trait de la personne ou même à son nom. Ça brise des choses en dedans et ça blesse et ces blessures-là durent longtemps. Alors Dieu veut qu'on soit conscient de nos sentiments envers lui et que ces sentiments-là soient purs, des sentiments de respect, des sentiments de révérence envers qui il est et ses titres et ses noms. Matthieu 6 et le verset 9, ici, le Christ nous dit, « Voici donc comment prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Et c'est important que nous y pensions. Écoutez, si vous ne l'avez jamais fait, faites une étude biblique approfondie sur les différents noms de Dieu dans les Écritures. Vous allez apprendre beaucoup, et ce faisant, vous allez améliorer vos rapports et votre relation avec Dieu. Vous allez vous rapprocher de lui, vous allez le connaître davantage, vous allez voir davantage sa volonté. Peut-être vous pouvez utiliser des commentaires bibliques. Il y a Bollinger en anglais, qui est très, très bon, mais il y a plusieurs autres commentaires qu'on peut utiliser aussi. Et vous pouvez aller dans une concordance biblique et prendre les différents noms de Dieu et ensuite faire votre propre recherche dans la Bible. Voyez-les, pensez-y et voyez ce que Dieu dit de lui-même, voyez comment il se révèle et servez-vous de ce moyen-là pour améliorer, solidifier vos rapports avec Dieu en appliquant ces choses-là dans vos vies. David a fait ça régulièrement. David a exprimé beaucoup d'affection envers Dieu. Il a parlé des miséricordes de Dieu, il a parlé du fait que Dieu était sa forteresse, son rocher, et il faisait confiance à Dieu. Et il l'a exprimé à Dieu, et il lui a dit à plusieurs reprises. Et lorsqu'on lit les psaumes, on voit l'amour profond de David envers Dieu, et ça doit être un exemple pour nous. Et vous savez, ce n'est pas pour rien que Dieu a dit que David était un homme selon son cœur, parce que David a ouvert son cœur envers Dieu et a exprimé son affection, son amour. Vous savez, l'amour grandit quand on l'exprime. Quand on ne l'exprime pas, quand on ne le dit pas, ça reste comme renfermé. Mais lorsqu'on l'exprime, qu'on le dit, qu'on met des mots dessus, l'amour grandit. Dans une relation de mariage, par exemple, Il nous faut réaliser à quel point notre conjoint a touché tous les aspects de notre vie. Il faut le réaliser et l'apprécier. Et c'est bon d'y penser. Et ça nous touche profondément au cœur lorsqu'on s'arrête pour réaliser à quel point notre conjoint ou notre conjointe a touché tous les aspects de notre vie et tout ce qu'il ou elle nous a apporté. Psaume 111, verset 9. Voici un passage tout simple ici. Alors, psaume 111 et le verset 9, David dit, en parlant de Dieu, « Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable, ou admirable, si vous voulez. » Il dit, « Le nom de Dieu est saint et admirable. » Dieu est comme ça. Et j'espère que nous prenons le temps de découvrir Dieu sous ces aspects-là, pour qui il est vraiment. Ça, c'est la bonne façon d'aimer Dieu et de l'adorer. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut faire attention aux pensées de notre cœur et avoir ce respect profond envers Dieu. C'est une façon de l'aimer. Dans Matthieu, chapitre 23, et le verset 9, Matthieu 23 et le verset 9. Regardez ce qu'il dit. « Et n'appelez personne sur la terre votre Père. » Il ne parle pas, bien sûr, ici de notre Père physique. Le Christ ici parle de ce qui était de mauvais dans le fait que les pharisiens s'arrogeaient le titre de Père aussi, au niveau spirituel, si vous voulez. C'est la même chose aujourd'hui, on ne doit appeler personne sur la terre, notre Père sur le plan spirituel, notre Père physique, on peut l'appeler notre Père, bien sûr. Paul a utilisé ce terme-là parfois par rapport aux membres de l'Église, non pas comme un titre, mais comme une fonction qu'il a faite par rapport aux gens de l'Église. Et regardez ici, « Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Et il dit après ça, « Ne vous faites pas appeler directeur ou enseignant, car un seul est votre directeur, le Christ, ou votre enseignant. » Voici la relation que Dieu veut que nous ayons avec lui. Et même dans l'utilisation des termes, qu'on ne doit pas appeler personne Père dans le sens spirituel sur la terre, mais que c'est un titre qui revient à Dieu sur le plan spirituel. Et la Bible parle de Abba, qui veut dire « cher papa », et ça indique notre relation intime d'affection, de reconnaissance, d'amour envers Dieu. Alors, c'est une façon de respecter Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas utiliser le mot « père » dans le sens spirituel envers des êtres humains. Il faut aimer Dieu pour qui il est et dans ce qu'il est. Et ça doit paraître dans notre compréhension et dans nos rapports avec lui, dans notre façon de lui parler, et ainsi de suite. Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, s'il vous plaît. Nous allons aller au chapitre 1. Et le verset 20. Éphésiens, chapitre 1, et le verset 20. Il l'a déployé en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Voyez-vous, pour Dieu, un nom a une grande signification. Ce n'est pas quelque chose de secondaire. Dieu désigne les noms des personnes, des individus selon leur caractère, selon qui ils sont. Alors, le commandement que Dieu nous a donné dans Exode 20 nous indique exactement qu'il faut respecter les noms. Il faut respecter le caractère de Dieu, les noms par lesquels Dieu se présente et l'honorer de cette façon-là, de façon affectueuse. Et ça va vous aider si vous en prenez conscience et si vous en vivez à aimer Dieu de bonne façon. Et c'est très clair pourquoi on ne doit pas utiliser le nom de Dieu en vain. Il y a des gens dans la société autour qui utilisent le nom de Dieu de façon profane et blasphématoire. C'est vraiment triste. L'expression d'un nom veut dire beaucoup et nous devons le chérir. Et lorsque nous utilisons ces termes-là en parlant à Dieu, nous devons être de plus en plus conscients de ce qu'ils signifient parce que ça nous approche de Dieu. David a continuellement adoré Dieu, a parlé de ses noms, a parlé de ses titres, a parlé de ses caractéristiques et nous devons faire la même. Ça fait partie de notre adoration, ça fait partie de notre relation d'amour avec Dieu. Et c'est un domaine de notre vie spirituelle où nous devons croire spirituellement. Le Christ nous a dit « Aimez Dieu » et c'est une priorité de tout votre cœur, de tout votre être, de toute votre pensée. Et si vous le faites, vous plaisez à Dieu. Si vous ne le faites pas, vous vous limitez et vous limitez la relation que vous pourriez avoir avec Dieu. Allons à Exode 20 maintenant. Exode chapitre 20, on va parler du sabbat maintenant, que Dieu définit comme étant un signe qui identifie ceux qui lui appartiennent. Exode 20 et le verset 8. Exode 20, on va commencer au verset 8. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Alors, Dieu a mis un temps de côté chaque semaine, un temps sacré, un temps consacré. Et c'est un rapport même physique que Dieu ordonne dans notre société. Aujourd'hui, vous savez, une chose qui manque énormément dans les familles modernes, c'est du temps de qualité entre parents et enfants. Qu'est-ce qui construit une relation? C'est le temps passé les uns avec les autres. Le temps investi dans nos rapports les uns avec les autres à l'intérieur d'une famille. C'est ce qui crée des liens d'amour et ce qui rapproche les gens. Lorsqu'on pense aux fréquentations d'un jeune homme et d'une jeune fille, par exemple, supposons que le jeune homme fait une grande distance pour aller voir une jeune fille qu'il apprécie beaucoup. Il veut être avec elle et tout ça, mais qu'à chaque fois qu'il va voir la jeune fille, qu'elle a toujours autre chose à faire, qu'elle a ses amis de filles à rencontrer et ainsi de suite, qu'est-ce que ça va lui dire? C'est qu'au fond, elle ne l'aime pas. On peut prendre l'exemple inverse aussi. Une jeune dame qui réserve du temps pour un rendez-vous avec un jeune homme qu'elle aime bien, mais lorsque le moment arrive, il a autre chose à faire. Il choisit, par exemple, d'aller à une partie de balle ou à une partie de football. Quel va être le message qu'elle va recevoir? Elle va comprendre immédiatement. Il ne se soucie pas d'elle. Ça va être clair. Alors, le commandement concernant le sabbat, ici, c'est la même chose, de garder du temps de qualité avec notre Dieu. Dieu veut que chaque semaine, ses enfants mettent de côté ce temps-là pour s'approcher de lui, se reposer, se nourrir, lui parler. Ça fait partie de notre amour envers Dieu. Et c'est aussi quelque chose qui nous identifie à Dieu. Allons dans Marc chapitre 2, s'il vous plaît. Marc, chapitre 2. Ici, le Christ parle du sabbat. Alors, Marc chapitre 2. Je me rappelle de certains cas concernant le sabbat. Où des gens n'ont pas vraiment compris l'importance du sabbat et le fait qu'on doit l'observer comme il faut. Et même à l'époque de Jésus, les gens ne comprenaient pas totalement comment observer le sabbat. Parfois, même ceux qui l'enseignaient, comme les pharisiens, ils lui reprochaient au Christ de faire certaines choses, alors que ces choses-là étaient vraiment permises le jour du sabbat. Marc 2, verset 27, le Christ dit « Le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Quel est le but? Allons à Exode, le chapitre 31. Exode, chapitre 31. Le commandement de respecter le sabbat même nous rappelle que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses qui nous a donné la vie. Et nous voyons dans Exode 30 que le sabbat est identifié comme un signe reliant Dieu à son peuple, à ses enfants. Exode chapitre 31 et le verset 13, nous allons commencer au verset 13. « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous. » Et parmi vos descendants, quoi? Un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. En observant le sabbat et en prenant du temps pour vous tourner vers Dieu et en faisant les choses à sa façon, ça vous identifie. Ça porte un message. Dieu n'est pas limité à un seul signe, vous savez. Il y a certaines personnes qui, erronément, ont dit « Ah, le seul signe qui identifie les enfants de Dieu, c'est de s'aimer les uns les autres comme le Christ a mentionné dans le Nouveau Testament. » Non, c'est ridicule. Dieu n'est pas limité à un seul signe. McDonald's a plus qu'un signe. Burger King a plus qu'un signe qui l'identifie. Le sabbat est aussi un signe qui identifie les enfants de Dieu et ses rapports avec lui. Si nous observons le sabbat selon les instructions divines, alors nous apprenons à le connaître de plus en plus. Verset 17, même chapitre, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en six jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Lorsque nous observons le sabbat, nous reconnaissons Dieu en tant que notre Créateur, celui qui nous a donné la vie, en tant que source de notre vie. C'est lui qui nous a donné le don de la vie. Et le septième jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Il y a beaucoup de directives dans la Bible. Comme par exemple, le jour du sabbat, il y a une sainte convocation. C'est un temps où les enfants de Dieu doivent se réunir pour être enseignés. Dans 1 Jean, chapitre 1 et le verset 3, 1 Jean, chapitre 1 et le verset 3, Jean écrit ici, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, en rapport avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Lorsque nous nous rencontrons pour fraterniser lors de la Sainte Convocation, Dieu en est réjoui. Je pense à mes petits-fils, j'aime ça, jouer avec eux, bien sûr. Mais parfois, vous savez, j'aime simplement m'asseoir et les regarder jouer mes petits-enfants ensemble. Et c'est un pur plaisir. Et c'est la même chose pour Dieu. Lorsqu'il regarde ses enfants se réunir et échanger ensemble, s'encourager. Le sabbat est une partie majeure de notre relation avec Dieu, de même qu'avec les autres aussi. Écoutez, comme on ne fait pas autre chose, qu'on ne fait pas aucun travail et tout ça, on a du temps, bien sûr, pour se reposer, mais pour lire davantage, pour faire l'étude biblique, pour fraterniser avec nos frères et sœurs. On a du temps pour réfléchir sur l'existence. Peut-être pour aller prendre une marche dans la belle nature, dans la création de Dieu. Peut-être d'amener nos enfants voir des belles choses dans la nature, dans un parc, et ainsi de suite. Utiliser le sabbat pour exprimer notre amour et notre affection et notre reconnaissance à Dieu. Et c'est important. Parfois, on pense au sabbat en termes de nous-mêmes. Non. Pensons au sabbat en tant qu'occasion d'exprimer notre affection envers Dieu et envers les autres, et envers Dieu en tant que notre Créateur, en tant qu'occasion pour étudier sa parole, en tant qu'occasion pour être avec les autres personnes que Dieu appelle. Ne vivez pas le sabbat simplement tourné vers vous-même. Ce n'est pas la façon d'observer le sabbat. Ça, c'est égoïste. Non, Dieu nous donne des directives à ce sujet-là aussi. Dieu veut qu'on l'aime et qu'on aime ses enfants. Et on ne peut pas aimer les enfants de Dieu si on n'aime pas Dieu, et l'inverse aussi. Vous savez, si vous aimez une dame, vous êtes mieux d'aimer ses enfants. Ça va ensemble. Et c'est la même chose en ce qui concerne Dieu et ses enfants. Alors, j'espère que vous saisissez le concept. C'est le but du sermon. C'est que vous regardiez les quatre premiers commandements de Dieu et que le Christ a résumé en disant, voici, c'est là le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être. C'est très important. Prenez ce que je vous ai donné aujourd'hui, étudiez-le, allez plus loin et croissez ainsi dans votre amour envers Dieu. Allons à Matthieu 22, là où nous avons commencé au début du sermon, le plus grand commandement qui existe. Et le Christ l'a expliqué clairement, sans aucune hésitation. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Dieu nous donne des instructions claires à ce sujet-là pour savoir comment l'aimer. Lorsqu'on met ces directives en pratique, frères et sœurs, nous développons l'amour de Dieu en nous. Ne négligez pas cet aspect-là de votre appel. Passez du temps, pensez-y. Faites des analyses et des études à ce sujet-là. Parce que c'est le plus important des commandements qui est résumé dans la parole du Christ ici. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça nous dit comment vraiment aimer Dieu.